monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour une édition spéciale à l'occasion du Mois de la Femme 2018. Une période qui s'inscrit dans le sillage d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. En effet, la mobilisation générale a pris la forme de marches et de campagnes mondiales, dont la fameuse initiative MeToo aux États-Unis et des actions semblables menées dans d'autres pays, portant sur des questions comme le harcèlement sexuel, la parité et la violence faite aux femmes. Le thème de cette année met l'accent sur les femmes rurales, souvent délaissées, laissées pour compte en matière de développement. Autonomiser les femmes reste le maître mot de la lutte pour les droits des femmes.
Parole de femme.
En Afrique, les femmes à se lancer dans le journalisme sont de plus en plus nombreuses, mais les obstacles toujours dus à leur genre, le simple fait d'être femmes, sont encore loin d'être écartés de leur chemin. Omi Regina Sambou, cofondatrice d'Afrique culturelle au Sénégal, est l'une de ces jeunes femmes. Je lui ai tendu le micro alors qu'elle était en visite à Washington.
Il y a trois femmes et un homme. On s'entendait bien et c'est la culture qui nous a réunis. On a fait nos preuves et donc si on se lance dans ce projet, on pourrait le faire marcher et c'est comme ça que c'est parti.
Est-ce que Afrique culturelle met en avant des artistes femmes ?
Pas trop quand même. Ça fait partie de... Parce qu'on ne s'attarde pas trop sur les questions genre, même si au fil du temps, au fil de notre pratique, on se rend compte que quand même, les artistes femmes, tout comme les journalistes femmes, ont plus de mal à se faire voir, à se faire entendre, parce qu'elles sont confrontées à beaucoup de choses qui, dans nos pays, ne sont pas faciles à dire. Comme on a vu le MeToo qui a eu en Amérique et tout, au Sénégal, d'autres activistes ont essayé de lancer le même concept, mais ça ne passe pas. On vous dirait que c'est pas les mêmes réalités et tout. Et au fond, on se rend compte que la plupart des femmes artistes sont sujettes à certains harcèlements et à certaines propositions indécentes qu'on leur fait. Elles ne peuvent pas en parler et ça réduit leur confiance en elles. Et à un moment même, artistiquement, soit il y en a qui ne sont pas assez solides, qui renoncent carrément à leur carrière et il y en a d'autres qui, voilà, font dans certaines complaisances ce qui constitue finalement un frein, quoi. Et donc, nous, on se dit qu'à un moment, il faudra qu'on se penche un peu sur elle, mais comme on est là, dans une phase où on veut asseoir la légitimité d'Afrique culturelle, faire en sorte que ça soit un site qui compte dans le panorama des sites africains, on n'a pas encore fait sien ce combat.
Et en ce qui concerne la loi sur la parité, les quotas au Sénégal, à quel stade d'avancement en êtes-vous ?
Pour la loi sur la parité, parce que c'est plus sur les postes électifs que ça a été fait. Et ça, on peut dire que bon an, mal an, malgré toutes les critiques, que ça a permis d'avoir une certaine évolution. Maintenant, il y a plus de femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a été décrié pendant un bon bout de temps. Même moi, je faisais partie des détracteurs de cette loi parce que je me disais, c'est une question de compétence qu'il fallait mettre en avant, mais pas aussi seulement la question genre. Mais après différentes rencontres avec différentes personnalités qui nous ont vraiment expliqué ce qui a abouti à l'application de la loi sur la parité, on comprend mieux que c'était impératif. Il fallait une loi comme ça pour obliger à ce que les femmes soient beaucoup plus représentées. Parce que dans nos pays, si je prends le Sénégal, de plus en plus, il y a une forme d'extrémisme qui se développe, surtout du côté de certains religieux islamistes qui trouvent que parfois les femmes n'ont pas à être dans l'espace public. On ne doit pas entendre même leur voix. Elles doivent juste rester dans les maisons. Et ils commencent à avoir une certaine force. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui que les femmes donnent de la voix, que les femmes soient visibles. Et je pense que celles qui sont à l'Assemblée nationale, elles représentent et elles font en sorte que la voix des femmes soit audible, même s'il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte la question des congés maternité, l'autorité parentale réservée exclusivement au père et tout ça. Ce sont des choses sur lesquelles les femmes doivent se battre et en ce moment, ça s'organise de plus en plus, tant sur les réseaux sociaux que dans les organisations syndicales, pour augmenter, par exemple, le nombre de mois de congés maternité auxquels ont droit les femmes. Parce qu'au Sénégal, en ce moment, on est toujours à 3 mois de congés maternité pour une femme, ce qui est vraiment dérisoire.
Est-ce que vous pouvez nous citer des femmes influentes sénégalaises?
Bon, en ce moment, je peux citer Moussoukoro Diop, qui est dans le digital, une femme informaticienne qui, de plus en plus, se fait connaître. Fanta Diallo aussi, qui est une sociologue et qui se bat aussi pour le droit des femmes. Elle est sociologue, elle est très engagée aussi politiquement. Elle fait partie de la garde rapprochée de l'opposant politique Khalifa Sall. On peut aussi citer, sur le plan culturel, quelqu'un comme Annie Jouga, qui est architecte, qui se bat aussi pour la sauvegarde et la préservation du patrimoine de Gorée, des sociologues comme Fatou Sow Sarr et Mambayam Diop aussi. Elle était l'ancienne députée de la 11e législature et elle est dans un parti qu'on qualifie d'être un peu islamiste, mais elle a été deuxième sur la liste de ce parti politique lors des législatives et durant la 11e ou 12e législature. Elle s'est fait remarquer de fort belle manière. Voilà certaines femmes qui me viennent en tête.
On écoutait Oumi Regina Sambou, cofondatrice d'Africulturelle au Sénégal. Les femmes activistes sont également de plus en plus nombreuses sur la scène politique africaine. Elles sont persévérantes, déterminées à aller jusqu'au bout, même devant les pires épreuves. Pour preuve, je vous propose d'écouter Raissa Sylvana Oyaseko, rédactrice en chef des Échos du Nord au Gabon, seule femme à occuper un tel poste au sein d'un journal d'opposition dans son pays.
Le 5 novembre 2016, j'ai été emprisonnée. Les agents de l'immigration sont venus chez moi. Ils m'ont mis l'arme sur la tempe, ils m'ont pris. Et arrivé dans leurs locaux, ils m'ont torturée. J'ai saigné jusqu'à perdre un bébé vu que j'étais enceinte. Ils ont voulu que je leur dévoile une source, ce que je n'ai pas fait. Et un monsieur qui m'a reçu, il me dit, moi je m'appelle Torture. Ils m'ont attaché les mains, les pieds et ils m'ont mis sur, on appelle ça chez nous le pont. Et sur le pont, ils m'ont donné des coups de matraque, des coups de pied. Ils m'ont marché dessus. Même en saignant, ils ne m'ont pas lâché. Ils ont continué à me torturer. Mais dès qu'ils ont compris que je n'allais pas révéler ma source, ils ont abandonné. Et l'avocat qui faisait aussi la pression dehors, l'avocat et la société civile qui faisaient aussi la pression dehors. Je crois que c'est suite à ces pressions qu'ils ont arrêté.
Vous avez porté plainte?
Nous avons porté plainte au pays, mais la plainte n'a pas été jugée recevable. Le directeur qui est en exil, Désiré Nam, a porté plainte en France.
Est-ce que vous travaillez dans la peur?
La peur est humaine. Je travaille pas vraiment dans la peur. Au contraire, ça m'a donné du courage. Ça m'a renforcé. C'est vrai, je sais que je suis filée. Je sais que je suis écoutée. Parfois, on m'envoie des messages d'intimidation. Non, je vais faire au mieux mon travail. Une autre fois, je rentrais du journal un soir. Et en prenant un taxi, 4 hommes m'ont tabassé dans le taxi et ils m'ont dit « ça ne fait que commencer ».
Est-ce que vous bénéficiez d'une protection ?
Non. C'est pour cela que les femmes ont peur de travailler, vu que je suis la seule femme qui dirige le journal au Gabon. Et c'est un journal, je ne dirais pas de l'opposition, mais un journal qui n'est pas très tendre vis-à-vis du pouvoir. C'est pour cela que ce journal n'est pas très apprécié.
Qu'est-ce que vous espérez pour votre pays et surtout pour les femmes de votre pays?
Un relâchement. Nous aspirons à la liberté, au développement. Et pour les femmes de mon pays, j'espère qu'elles prendront à cœur leur rôle parce qu'aujourd'hui, elles se contentent d'être résumées à des rades-pâquerettes. Elles ne savent pas en réalité quel est leur pouvoir.
Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur la place de la femme dans la société en Afrique?
En Afrique de l'Ouest, ça va. La femme connaît sa place puisqu'elle arrive à faire des grandes choses. En Afrique centrale, quand il y a des grandes manifestations, elle est encore vue comme cette femme qui doit se cacher alors qu'elle a un pouvoir dont elle n'est pas consciente. J'exhorterai les femmes à prendre conscience de leur pouvoir, à se manifester.
Raïssa Sylvanin Oyaseko, vous êtes une femme très spéciale, très courageuse. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.
Merci.
Après avoir tendu le micro à la rédactrice en chef des Échos du Nord au Gabon, j'ai demandé à son confrère, Moussaï Avenir de la Tirée, directeur de publication d'Abagarde au Tchad, dont le domo est « Justice, un idéal pour tous », quelle place occupait la femme dans la société tchadienne de nos jours?
Dire que la femme occupe une place au Tchad, c'est vraiment mentir. La femme est reléguée au second rang. Tout ce qui se dit de la femme se limite dans les discours politiques. Je pense qu'il y a des textes qui octroient 30% des places aux femmes dans toutes les institutions de la République, mais dans la pratique, il n'en existe pas. D'ailleurs, d'abord, pourquoi octroyer 30% de place aux femmes alors qu'on prône l'égalité des sexes dans les discours? La femme aujourd'hui, elle est vue comme la danseuse, elle est vue comme la cuisinière, elle est vue comme celle qui est chargée de s'occuper de l'homme, elle est vue comme l'objet sexuel. Ça s'arrête là, parce que le viol est devenu monnaie courante au Tchad. Le viol se pratique même dans la haute sphère de l'État, sans être puni. La femme, à mon avis, elle aspire à avoir sa place au Tchad. Il y a des femmes qui luttent.
Combien y a-t-il de femmes journalistes dans votre rédaction?
Il y en a 3, et je pense que c'est même le meilleur record.
Sur combien de personnes?
3 sur 9. Nous avons toujours essayé de faire mieux, mais les femmes ont peur d'exercer dans des rédactions qui ne sont pas sur la ligne directrice du gouvernement. C'est-à-dire dans des rédactions qui dénoncent les abus de pouvoir, et ainsi de suite. Les femmes ont peur parce que souvent, quand les forces de l'ordre mettent la main sur elles, on les viole, on les torture. Donc les femmes ont beaucoup peur de venir travailler dans des journaux considérés comme proches de l'opposition. C'est ça le drame. Sinon, j'en avais 8 ou 9. Mais qui, au fil de temps, sont partis.
Vous avez d'ailleurs entendu le témoignage de Raïssa Sylvanin Oyaseko au Gabon. Votre réaction?
J'étais bien au courant de ce que Raïssa vivait au Gabon. Nous étions branchés, on était au courant, la presse tchadienne était informée de sa situation. Je dirais simplement que ça, c'est de l'animosité. Quand un pouvoir politique censé garantir les droits des femmes prend une femme pour la torturer, moi, j'estime que c'est de l'animosité, tout simplement.
À propos, vous-même, vous avez été arrêté à plusieurs reprises au Tchad.
J'étais arrêté en tout 19 fois, je crois. La plus longue fois, j'ai mis 4 mois en prison. Mais pour les autres fois, c'est des emprisonnements de 5 jours, 6 jours, 2 jours, 3 jours. On vous astrait à la diète, pratiquement. Et avec la chaleur qui fait au Tchad, des fois, vous avez une cellule de 50 degrés, mais il faut y vivre, quoi, 2-3 jours.
Est-ce que dans votre rédaction, vous mettez en avant certaines femmes, certaines personnalités, pour qu'elles aient plus de visibilité, par exemple des personnalités tchadiennes qui seraient des femmes?
Oui, nous le faisons constamment, mais en même temps nous dénonçons aussi les femmes qui pillent, qui volent, hein, comme dernièrement le maire de la ville de Niamey, Madame Maria Matair, qui s'est rendue coupable de détournement, nous l'avons dénoncé. Mais par exemple, l'ex-ministre de la Santé, Ngarmatna Carmel, qui est une femme très courageuse, qui a dû dire les vérités de la République, qu'un ministre ne peut pas oser dire, nous l'avons encouragé. Naturellement, nous mettons vraiment en relief les femmes courageuses, les femmes qui font bien, les femmes qui se battent pour la démocratie, ça c'est sûr, comme Jacqueline Moudéina, Emmanuel Delphine et autres. Ça, nous le faisons constamment.
Qu'est-ce que vous espérez pour les femmes tchadiennes et d'une manière générale, on va dire, pour les femmes africaines?
Il faut que la gouvernance au niveau local change. Tant que ça ne change pas, la femme se limitera à ce niveau. Aujourd'hui, c'est vrai, les femmes se battent. Ça, c'est déjà une lueur d'espoir, elles se battent. Mais le problème, c'est qu'elles sont très peu. La liberté des femmes doit venir de leur époux, normalement. Aujourd'hui, avec les pesanteurs socioculturels, les femmes sont sous la domination évidente de leur époux. Tant que les époux, au niveau des familles, ne font pas la promotion de leurs propres femmes, ce n'est pas au niveau étatique que les femmes pourront s'élever. Mais j'ai bon espoir que la nouvelle génération des femmes se bat très bien et la liberté, ça s'obtient au bout d'un long combat, quoi. Et ça, je reste très optimiste pour les femmes tchadiennes et africaines.
C'était Moussaï Avenir de la Tirée, directeur de publication d'Abagarde au Tchad. L'ONU célèbre cette année les activistes, femmes et hommes, qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes et à réaliser leur plein potentiel. Le secrétaire général Antonio Guterres, depuis le début de son mandat, a clairement présenté sa position sur les questions liées au genre dans le monde, appliquant à la lettre le dicton « charité bien ordonnée commence par soi-même ». L'organisation onusienne a justement annoncé avoir atteint la parité sur les postes à haute responsabilité au sein même de l'ONU. À ce propos, notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, s'est penché sur la question des inégalités professionnelles au Burundi.
Madame Mimi Harerimana est une avocate au sein du barreau de Bujumbura. Assise dans son bureau du quartier asiatique de la capitale, elle attend l'arrivée des clients venus lui exposer leurs doléances. Parmi eux, des femmes qui ont été renvoyées de leur boulot respectif du secteur privé ou de la fonction publique sans motif valable. L'avocate reconnaît que même si normalement les femmes burundaises sont traitées équitablement dans la fonction publique et reçoivent des injonctions malencontreuses.
Oui, ces cas existent. Ces cas existent surtout que pour la femme, pendant la grossesse par exemple, elle peut avoir des problèmes de santé. Elle peut passer 6 mois sans bien travailler. À la fin de l'année, elle peut être mal cotée. C'est une injustice parce qu'on n'évalue pas la situation de la femme en tant que mère. Des fois, on peut même suspendre son contrat de travail. La loi vraiment est la même pour l'homme et la femme. Il y a certaines difficultés où la femme est mal vue, est mal traitée par rapport à l'homme.
Cette autre femme qui travaille dans une des nombreuses pharmacie éparpillée dans les 2 communes de la capitale a eu la chance d'être traitée équitablement comme ses collègues hommes pour le bien de toute la boîte. Témoignage. Il est vrai que les femmes et les hommes restent biologiquement différents. Dans la culture burundaise, l'homme est celui qui s'occupe de toutes les affaires courantes, sauf que les femmes regardent surtout tout ce qui a trait à la cuisine. S'il est vrai que la femme est relayée au second plan dans les affaires politiques, sécuritaires, elle commence de nos jours à être l'égale de l'homme. Le Burundi reste un des rares pays où une femme est devenue, dans les années 90, premier ministre. Mais pour Dick, qui est marié, père de plusieurs enfants, l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes ne sont pas pour bientôt.
La société dans laquelle nous vivons est une société macho, pas 10-15 ans qui vont changer les choses, je ne crois pas. Il faut encore des années de sensibilisation. Quand je dis sensibilisation, c'est de la part des autorités, de la société aussi, des associations des femmes qui doivent travailler. Les femmes doivent se battre, elles doivent revendiquer leurs droits. Ça ne s'acquiert pas en un claquement de doigts, donc c'est un long combat.
S'il est vrai que des avancées significatives ont été observées au Burundi en faveur de l'égalité entre l'homme et la femme, d'autres mesures juridiques et constitutionnelles doivent être demain adoptées pour la protection et la promotion des droits des femmes au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies, est entrée en vigueur en 1981. Une 40aine d'années après, des veuves sont encore déshéritées en Afrique. Les salaires restent inégaux aux États-Unis. Des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan et le Yémen pratiquent toujours la lapidation, principalement contre les femmes. Des filles mineures sont toujours mariées en Afrique, en Asie et en Occident. De même que l'excision n'a toujours pas été éradiquée.
Si jeunesse pouvait.
Une note positive, la nouvelle génération exposée est sous influence des campagnes mondiales dénonçant la discrimination basée sur le genre devrait être beaucoup moins misogyne que nos aïeux et, n'ayons pas peur de le dire, que nous-mêmes. Allons donc faire un tour au Togo où notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, a rencontré des jeunes entrepreneurs en énergie renouvelable.
Nous sommes au centre d'incubation Energy Generation Académique, situé à Kégué dans la banlieue nord de Lomé. Cet incubateur est réservé aux jeunes Africains porteurs de projets dans le domaine énergétique. La création de Energy Generation Académique a été suscitée par des obstacles rencontrés par sa promotrice lors de l'exécution d'un projet d'électrification à base d'énergie solaire en milieu rural. Astria Fataki, présidente d'Energy Generation.
Il y a quelques années, j'avais créé une association qui avait pour objectif de participer à l'électrification rurale à travers l'installation de petits kiosques solaires. En réalisant cette activité, on a été confronté à un certain nombre d'obstacles, le plus important étant lié au fait que le matériel était importé. Donc ça a posé des problèmes, surtout en termes d'appropriation de la technologie par les bénéficiaires. Et donc ça posait effectivement des problématiques de maintenance et autres. L'idée à un moment, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut participer à l'électrification du continent tout en utilisant des ressources locales.
Les étudiants de Energy Generation Academic venus de différents pays d'Afrique sont des lauréats du Africa Energy Generation Prize. C'est le projet de valorisation de déchets organiques qui a permis à la béninoise Ghislaine Adamenou d'être sélectionnée.
Je travaille sur la production et la valorisation du biogaz. Vu le changement climatologique, il faut penser aux énergies renouvelables qui protègent l'environnement. Donc la production du biogaz consiste à méthaniser ces déchets produits dans les ménages, dans les fermes, dans les abattoirs, pour pouvoir avoir de l'énergie thermique pour la cuisson et puis de l'électricité.
Guillaume Quelin, l'un des formateurs à Energy Generation Academic, nous explique comment se fait l'encadrement de ces jeunes dans le centre.
On apporte aux porteurs de projets un cadre qui leur permet de développer leur projet. Il y a beaucoup d'autonomie qui est laissée aux porteurs de projets. On ne les voit pas comme des étudiants. Et donc, du coup, c'est eux qui sont maîtres de leur temps ici et qui sont maîtres, en fait, de l'évolution de leur projet. Nous, on est là pour accompagner leur idée, accompagner leur motivation. Et donc, on est là pour essayer de leur donner des expertises techniques et aussi pour suivre l'avancement petit à petit de leur projet.
À la fin du cursus, chaque pensionnaire est soumis à un test et les trois meilleurs projets sont primés selon leur pertinence et leur portée sociale. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
Une petite parenthèse pour dire que tous les ans, le 8 mars, on se corrige pour dire que la journée de la femme est en réalité la journée mondiale des droits des femmes.
Entre parenthèses.
La lutte contre la discrimination à l'égard des femmes passe par l'acceptation de soi et le refus du contrôle de son propre corps par autrui. En ce sens, les femmes de la région des Grands Lacs, pesant plus de 90 kilos, ont désormais une ambassadrice grâce au concours Miss Ronde régionale qui s'est tenu à Bukavu, dans le sud Kivu. Un reportage d'Ernest Mouerou.
À l'issue de la délibération du jury et après prise en compte du vote du public via le réseau cellulaire Orange, Mademoiselle Jeanne Mboula, des nationalités congolaises, âgée de 20 ans, remporte la couronne des Miss Ronde de la région des Grands Lacs. Fière de sa victoire, cette étudiante de 95 kilos dévoile son projet social d'ouvrir une boutique d'habillement adaptée aux femmes des grandes masses.
Vraiment, je suis émue. C'est une joie. Ça me donne une fierté. Je dirais aux femmes rondes de se donner du courage, qu'elles ne se sous-estiment pas. Une beauté n'est pas seulement une sœur, mais tout le monde a sa beauté particulière. Nous, c'est la rondeur. Mon projet est de créer une boutique big size et de l'élargir partout au monde. Tous, nous savons que partout, trouver des habits à grand caractère, 3XL, 2XL, c'est un peu difficile. Il faut un peu trop sillonner la ville. C'est pourquoi je voulais un peu créer cette boutique pour qu'on trouve ces genres d'habits. Parce que quand on est ronde et on est chic, je vous assure qu'on n'est pas inaperçue.
La rondaise Denise Umuhoza est élue première dauphine, suivie de la congolaise Chloé Yasmine comme deuxième dauphine. Assia Nyiramwiza, des nationalités rwandaises, pesant 127 kilos, est reconnue Miss Fair Play de la soirée. Pour Ophélie Kadibouami, cofondatrice de la campagne Chic Madame, l'élection de la Miss Ronde n'a rien de promotion de l'obésité. « L'activité a été soutenue par la plateforme des autorités locales de la région des Grands Lacs et d'autres partenaires. L'ambassadrice des femmes rondes, élue en séjour, a été couverte de plusieurs cadeaux, dont un chèque de 1000 dollars américains en francs congolais. Depuis la salle Bodega à Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Arrête!